السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous reprenons la lecture du livre صحيح الأدب المفرد الإمام البخاري من شيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. Donc nous reprenons la lecture de l'authentique du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari qui a été travaillé, agencé et organisé par l'imam al-Bukhari par l'imam al-Albani رحمه الله تعالى. À savoir que l'imam al-Albani رحمه الله تعالى a pris le livre Al-Adab al-Mufrad, puis il a étudié l'ensemble des hadiths, les a triés entre ceux qu'il retenait, qu'ils étaient ce qu'on appelle maqboul ou sahih, et il a mis un autre tome dans lequel il a mis ce qu'il considérait comme étant faible. Et nous sommes arrivés au chapitre Babun man aghlaqa al-bab 'ala al-jar. Chapitre celui qui ferme la porte au voisin. Chapitre, celui qui ferme la porte au voisin. Le but de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, à travers ce chapitre, est d'exposer le jugement de celui qui fait cette action, de montrer qu'il est dans le péché, de montrer ce qu'il encourt comme punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où il ferme sa porte au voisin tout en ayant connaissance des besoins de son voisin et tout en se sachant lui dans la suffisance et même le surplus. L'obligation face au bienfait d'Allah est de se montrer reconnaissant. Et parmi la reconnaissance, utiliser le bienfait d'Allah Azza wa Jal dans la recherche de son agrément. Et quoi de meilleur que d'aider son frère, quoi de meilleur que d'aider plutôt son voisin. Naam. Sans attendre qu'il vienne nous demander, sans attendre qu'il vienne se mettre dans une position de difficulté. Le voisin noble, le voisin pieux, lui va vers son voisin et va s'enquérir de ses besoins. Ceci étant dit, prenons le cas extrême, le cas du voisin qui vient frapper à la porte de son voisin pour lui demander de l'aide car il se voit dans le besoin, pour lui demander de l'aide car Allah Azza wa Jal lui a donné avec largesse. Comment réagit ce dernier? Il referme sa porte et renvoie son voisin. Il aura ici délaissé et bafouer le droit du voisin. Que pensez-vous de l'effet d'une action telle dans le cœur de son voisin qui a déjà subi l'humiliation de la difficulté de venir frapper à sa porte? Il repart bredouille avec l'humiliation de son voisin. Pire encore, si celui qui lui ferme la porte lui montre des traits du visage sévères, lui montre qu'il l'a mis en colère, qu'il l'a dérangé dans la tranquillité de son foyer. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit: An ibn Umar radiyallahu anhuma qala: Laqad ata alayna zaman aw qala hin ma ahad ahaq bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. الإمام البخاري رحمه الله منسون حديث sensationnel, dans lequel Abdullah ibn Omar nous mentionne la situation des Sahaba et leur vision de la dunya face à la vision de la fraternité et de la valeur du musulman. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit: nous avons connu une époque ou un temps où personne n'avait droit sur son dinar ou son dirham plus que son frère musulman. Personne n'avait droit sur sa pièce d'or ou sa pièce d'argent plus que son propre frère musulman. Mais de nos jours, certains d'entre nous préfèrent les dinars et les dirhams à son frère musulman. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, combien de voisins seront attachés à leurs voisins? L'un d'eux dira: ô Seigneur, celui-ci m'a fermé sa porte et m'a privé son bienfait. Dans ce hadith, le rapporteur nous dit que Abdullah ibn Omar a dit: nous avons connu une époque ou un temps. Ceci fait partie de la précision des rapporteurs de hadith en islam. Lorsqu'ils avaient le moindre doute sur un mot, bien que zaman et hin soient des synonymes, mais le rapporteur du hadith est tellement fiable et porte tellement le poids de la amana du dépôt qu'il veut mentionner ce doute. Donc ils étaient très précis dans la transmission du message et accordaient énormément d'importance sur la différence des mots lors de doute. Si cela était le cas pour la parole des compagnons, il rapporte ici la parole d'Abdullah ibn Omar. Que penser alors de leur comportement face aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons connu une époque ou un temps où personne n'avait droit sur son dinar ou son dirham plus que son frère musulman. C'est-à-dire qu'il donnait préférence à son frère musulman sur ses propres biens. Comme Allah nous dit dans le Coran: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils font prévaloir autre que sur leur propre personne, bien qu'eux-mêmes soient dans le besoin. Allah Azza wa Jal, dans ce passage de Sourate Al-Hashr, fait les éloges de l'Muhajiroun, puis fait les éloges de l'Ansar, enfin ceux qui les ont suivis avec excellence. Pourquoi est-ce qu'ils se comportaient comme cela, ses compagnons, radiallahu anhu? Car ils avaient pleinement confiance en Allah quant à la garantie de leur subsistance. Allahu Akbar. Ils avaient pleinement confiance en Allah quant à la garantie de leur subsistance. Deuxièmement, ils avaient un espoir profond quant à la récompense d'Allah Azza wa Jal en dépensant de ce dirham et de ce dinar. Troisièmement, la dunya n'avait aucune valeur pour eux. Enfin, leur frère, le musulman, pour eux, dans leurs yeux, était une personne gigantesque avec un droit incommensurable. Ainsi, celui qui recherche la récompense d'Allah Azza wa Jal réussira à se comporter ainsi. Puis, Abdullah ibn Omar, Naam, et aussi on peut ajouter qu'on voit dans cela que Sahaba donnait beaucoup d'importance à quoi? À As-Sadaqa wa Badl al-Ma'ruf. As-Sahaba donnait beaucoup d'importance à quoi? À As-Sadaqa, à l'aumône, au fait de donner. Puis Abdullah ibn Omar nous parle d'un changement d'époque et d'un changement de comportement observé chez les gens. Alors qu'il est dans les siècles des Lumières, dans les siècles préférés, dans les meilleurs des siècles, Al-Qurun al-Mufaddala. Il nous dit: de nos jours, certains d'entre nous préfèrent les dinars et les dirhams à son frère. À son frère. Ici, il décrit les gens de son époque. Il est dans l'époque de qui? De Tabi'in, lorsqu'il dit cela. Et la plupart des compagnons sont décédés, car lui faisait partie des jeunes compagnons, radiallahu anhum. Si lui a dit cela à son époque, qu'allons-nous nous dire à la nôtre? Si lui dit qu'ils ont préféré leur dinar et leur dirham sur leurs frères musulmans. Certaines personnes, de nos jours, le dinar et le dirham est plus aimé auprès d'eux que la religion d'Allah azawajal. Que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se soucient aucunement de savoir d'où il amasse cet argent. Ils ne se soucient aucunement de savoir s'il spolie les droits d'un tel ou d'un tel. Il ne se soucie aucunement de savoir si la provenance de son argent provient de l'alcool ou provient du porc ou du vol ou autre. Donc si, à son époque, il dit, radiallahu anhum, que l'or et l'argent leur est devenu préférable à certains ou chez certains que leurs frères musulmans, nous disons-nous à notre époque que l'or et l'argent est devenu préférable à certains, n'aiment que leur propre religion. Que leur propre au-delà, wal-iyadu billah. Puis, il mentionne la parole du prophète, alayhi salat wa salam. Il mentionne la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, kam, yani, sami'atu nabi sallallahu alayhi wa j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyamah. Combien de voisins seront attachés à leurs voisins le jour de la résurrection? C'est-à-dire pour se plaindre de lui à Allah. Car il a bafoué son droit. Car il ne s'est pas acquitté de ses devoirs qui lui revenaient de droit. Car il l'a privé de ses besoins tout en ayant la capacité à les assouvir, à les fournir. Et on voit ici le comportement des compagnons et les comportements des gens de science de Ahl Sunnah. C'est qu'ils mentionnent une chose. Et utilise comme preuve la parole du prophète alayhi salat wa salam. Et cela est la meilleure des éducations. Que tu dises que tu avances une chose, puis que tu justifies cette chose avancée, et que tu mentionnes comme preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Je te dis ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Je fais ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Ceci est la meilleure éducation de la famille, des parents, des proches, des enfants. Naam. Ne pas se contenter de dire la vérité, mais de l'accompagner de ce qui doit amener l'acceptation et la soumission volontaire et durable. Laquelle? Le fait de savoir que ton bien-aimé, ton messager, ton prophète, ton exemple envoyé faisait cela ou a ordonné cela. Ça fait partie de sa tradition et de sa sunna. Yaqulu ya Rabb. Que dira-t-il, ô Seigneur? L'un d'eux dira, ô Seigneur, celui-ci m'a fermé sa porte et m'a privé de Wamana'a Ma'rufahu. Il dira, ô Seigneur, celui-ci m'a fermé sa porte et m'a privé. Sont bien faits. Ce passage est la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Il y a ici une menace sévère à l'égard de toute personne qui prive leurs voisins de leurs droits. Naam. Et on nous annonce que le serviteur sera jugé pour cela le jour de la résurrection. Naam. Et que celui qui privait ses voisins de leurs droits, bien qu'il se voyait lui dans la suffisance, et plus encore, son voisin se plaindra de lui le jour de la résurrection, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant, Babun la yashba'u duna jari. Le chapitre suivant, Il ne se rassasie pas alors que son voisin est affamé. Il ne se rassasie pas alors que son voisin, lui, est affamé. Il ne se rassasie pas, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la suffisance dans la consommation de la nourriture et la boisson pour lui et sa famille, pour lui et ceux qui sont sous sa responsabilité directe, tout en ayant connaissance que de ses voisins, il y a certaines personnes qui ne trouvent pas de quoi manger, qui ne trouve pas de quoi boire. Lui est dans la suffisance au point de même tomber dans le gaspillage parfois. Et il dort tranquillement tout en sachant que ses voisins ont la faim au ventre, femmes et enfants, époux et parents. Le fait d'avoir ces caractéristiques-là sur le musulman est une preuve de la faiblesse de sa foi. Est une preuve de la faiblesse de sa foi et de son manque de piété. L'imam al-Bukhari nous mentionne an Abdillah ibn al-Musawir. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. عبد الله بن عباس كي انفورما ابن الزبير رضي الله عنهما j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire le croyant n'est pas celui qui se rassasie alors que son voisin est affamé. Le croyant n'est pas celui qui se rassasie alors que son voisin a faim. Alors que son voisin a faim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Leïs al-mu'min » n'est pas croyant, n'est pas le croyant. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant de la foi complète, celle qui lui a été commandée de manière obligatoire. Il n'a pas atteint ce niveau. Si tel est son état, il ment jusqu'à dépasser le niveau nécessaire, jusqu'à être rassasié, tout en ayant connaissance que c'est de ses voisins dans la difficulté et qu'il ne trouve pas de quoi se nourrir convenablement, eux et leur famille, Naam, il a plus que ce qu'il lui faut, mais il ne leur donne rien. S'il est dans cet état, si telles sont ses actions, alors sa foi est faible. Alors, sa foi est faible. Même s'il garde la base de la foi. Naam, même s'il garde la base de la foi. Et lorsqu'on nous dit dans un hadith, « Leïs al-mu'min » ou « Wallah la yu'min » celui-ci n'est pas croyant, on ne dit cela que pour quelqu'un qui a commis un péché grave. On ne dit cela que pour une personne qui a commis un péché grave. Et celui qui a commis un péché grave, sans repentir, il ne peut avoir la foi complète obligatoire. Il a donc commis un péché grave, un grand péché. Car on ne dit pas « il n'est pas croyant » parce qu'il a délaissé une action recommandée. Non. Si on dit qu'il n'est pas croyant, c'est forcément qu'il a commis un acte considéré comme une kabira, comme un grand péché. Comme un grand péché. Donc, dès que vous entendez, dès que vous lisez « il n'est pas croyant », c'est forcément qu'il a délaissé une obligation ou qu'il a commis une interdiction. Et ce degré amène au grand péché. Donc, celui qui commet cela et ne se repent pas mérite une punition chez Allah subhanahu wa ta'ala car elle a commis un grand péché. Le chapitre suivant, Babun yukthiru ma al-maraqi, yukthiru ma al-maraqi, fa yuqsimu fil jiran. Le chapitre suivant, يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. Il augmente l'eau dans le bouillon pour pouvoir en distribuer aux voisins, pour pouvoir en partager entre les voisins. Ici, l'imam al-Bukhari nous mentionne ce chapitre à travers lequel on voit la noblesse des comportements en islam. Le bon voisinage, le fait de s'enquérir de la situation des voisins et de chercher à rentrer la joie dans leur cœur, même si cela a lieu en leur donnant des choses très modestes, comme un bol de soupe,
Barakallahu fikum.
Le fait de lui donner cela lui fera voir et mettra forcément dans son cœur ce grand sens voulu en islam. Subhanallah, mon voisin. Subhanallah, ma voisine. Pendant la cuisine, pendant cet acte qui est destiné à l'époux, aux enfants ou bien aux parents, ces derniers ont pensé à nous. Allah Azzawajal leur a fait penser à nous. Mais qui sommes-nous? Nous, pour mériter d'entrer dans leur pensée au point où ils nous donnent une part de leur souper. Cela va forcément développer d'immenses sens dans les cœurs entre les différents voisins. Entre les différents voisins. À qui est-ce qu'il donnera? Il va regarder celui qui est le plus dans le besoin. Il va regarder celui qui a la porte la plus proche, comme on l'étudiera, Inch'Allah. Et il va diversifier ce qu'il donne. Tantôt il donnera à celui-ci, tantôt il donnera à celui-là. Et s'il a la capacité, il donnera à l'ensemble. Voici les comportements auxquels on nous invite en islam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit an Abi Dharr radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath asma' wa uti' wa law li 'abdin mujaddi' al-atraf wa idha sana'ta maraqan fa akthir ma'aha ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها وإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة وفي رواية بلفظ يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماء المرق وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. أبو ذر رضي الله عنه dit: Mon Khalil m'a recommandé. Ils ont traduit ici par mon ami intime. Mon Khalil, c'est-à-dire celui parmi les gens que j'ai aimé au plus haut degré de l'amour. El-Khulla, c'est un degré de l'amour. Et c'est le degré qui culmine ce domaine-là. C'est le toit de l'amour. C'est le point culminant de l'amour qui puisse y avoir entre une créature et une autre. Naam. Ou entre un être et un autre même. Naam. Entre un être et un autre. Abu Dharr radiallahu anhu nous dit, Awsani Khalil. Qui est le Khalil de Abu Dharr? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous indique quoi? L'amour profond qu'avaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre quoi? La grande place qu'avait le prophète alayhi wa sallam dans le cœur des compagnons. Et lorsque celui qui te fait des recommandations, celui qui te parle, celui qui t'ordonne, celui qui t'interdit, celui qui t'oriente, tu l'aimes de cet amour-là. Lorsqu'il te fait cette recommandation, quel impact ça aura sur ton cœur, sur ta personne, sur ton comportement? Sans aucun doute, l'effet sera très grand en comparaison à l'effet d'une autre personne. Bien que le musulman se doit d'accepter du proche et du lointain, de l'aimer et du mal aimé. Il lui a recommandé trois choses. Et ça montre la bonne pédagogie. Le fait de citer un nombre, ça aide à structurer Naam, la compréhension, la mémorisation, mais la transmission également. Si lorsque tu enseignes, tu dis « Les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de sept. » Puis tu les énumères. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5, puis tu les énumères. Les piliers de la foi sont au nombre de 6, puis tu les énumères. Subhanallah. La personne va les noter. La personne va les mémoriser. Et lorsqu'elle va arriver à 4 au lieu de 5, elle va savoir qu'il manque quelque chose. Donc pour la mémorisation, pour l'étude, pour la transmission, le fait d'énumérer, naam, le fait d'énumérer, c'est très important et c'est une excellente pédagogie. C'est pour ça qu'on trouve dans de nombreux hadiths du Prophète sallam, ijtanibu sab'al mughirat. Il cite la généralité, puis il cite le détail. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses, celui qui les a goûtera au délice de la foi. Trois personnes, Allah, Mada, ne les regardera pas le jour du jugement dernier, il ne leur parlera pas, ils ont un châtiment douloureux. Donc beaucoup de hadiths nous yani, énumèrent des choses de manière générale, puis nous les citent de manière détaillée. Donc dans ce hadith, trois choses. Abu Dharr a reçu trois recommandations de son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, Asma'u wa uti'a. J'écoute et j'obéis, c'est-à-dire au détenteur du pouvoir, c'est-à-dire au gouverneur. Le musulman doit obéir à son dirigeant. Il doit obéir à son roi. Il doit obéir à son président. Il doit obéir à son gouverneur. Il écoute et il obéit. C'est-à-dire, il accepte l'information et il l'applique. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Ne pas disputer le pouvoir aux détenteurs. Au contraire, invoquer Allah en leur faveur, souhaiter pour eux tout le bien, leur obéir, et avec l'obéissance au gouverneur, il y a l'unité du peuple. Il y a l'unité du peuple. Et ceci est un grand chapitre des livres de Aqidah chez les gens de la sunna. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même si c'est un esclave aux membres amputés, même si c'est un esclave aux membres amputés, bien qu'il y ait le consensus des savants qu'il n'est pas apte à être gouverneur, mais malgré ça, dans le cas où il aurait pris pouvoir d'une manière ou d'une autre, ben il faudrait lui obéir pour préserver l'unité des musulmans et pour que le sang ne coule pas. Et pour que le sang ne coule pas. Comme on peut l'observer dans d'autres pays, qu'Allah nous en préserve. Donc le fait de repousser le mal passe avant le fait de faire le bien. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque tu prépares un bouillon ou une soupe, ajoute de l'eau ou mets beaucoup d'eau. Rajoute de l'eau. Puis, donc ici, remarquez, il parle d'un bouillon, n'est-ce pas? Dans le bouillon, il y a des légumes, il y a de la viande, éventuellement, et il y a les liquides. D'entre tout cela, le prophète m'a cité une seule chose. Laquelle? L'eau. Parce que c'est la chose la plus facile, c'est la chose la moins coûteuse, c'est la chose qui te... Yani, la moins lourde, même chez celui qui peut être touché d'avarice. Même chez celui qui peut être touché d'avarice. Naam. Donc, ça ne nuit à personne. Même celui qui a du mal à dépenser pour Allah Azza wa Jal, puis pour aider les gens. Naam. Qu'est-ce que ça lui coûte le fait de rajouter un verre d'eau, ou deux verres d'eau, ou trois verres d'eau? Ça ne lui coûte rien. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il lui dit de se rendre chez ses voisins afin il lui dit de regarder, de voir une des demeures parmi ses voisins pour leur donner de son bien. Naam, c'est-à-dire leur offrir de ce bouillon, de cette soupe. Ici, le prophète nous éduque sur le bon voisinage et sur la bienfaisance envers les voisins. Et le sens subtil qu'il faut comprendre ici, c'est pas la soupe en soi. C'est le fait que ton voisin va ressentir que tu as pensé à lui. Le fait que ton voisin va te mentionner en bien. Le fait que ton voisin va t'aimer. Le fait que ton voisin va avoir envie de te faire du bien. Ainsi, par ton action, tu vas le pousser, lui, à appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les droits du voisin. Naam. Après lui avoir fait ressentir que Mada qu'il avait une place. Qu'il avait une place dans la chose qui est aimée de chacun, sa nourriture. Prenons un autre exemple. Pour mieux comprendre, prenons un autre exemple. L'exemple du cadeau. L'exemple du cadeau. Parfois, une personne voyage et au retour, Naam, au retour, il pense à une personne. Un homme voyage, au retour, il pense à une personne. Il lui reste peu d'argent. Naam. Et il achète un petit présent, un petit parfum ou une chose simple. Un stylo, un livre de rappel qui coûte peut-être 1 euro, 2 euros, un peu de date. Il y a des choses vraiment peu coûteuses. Au retour, Naam, au retour, il lui dit, voilà, j'étais en voyage, subhanallah, j'ai pensé à toi, j'ai voulu te faire plaisir, je sais que ta place auprès de moi est beaucoup plus grande que celle-ci, mais c'est ce qu'Allah Azzajal m'a facilité, j'ai pas voulu revenir les mains vides pour toi, voici ce cadeau. Voici ce cadeau. Subhanallah, tu vois la personne et on croirait que lui a été offert, et allez, si c'est une femme, une bague en or, ou plutôt, faudrait-il dire maintenant, un sac à main de telle marque, ou le dernier robot ou tel appareil, tel appareil qui fait le ménage, si le ménage est encore fait de ses mains, et tel homme, tu lui aurais offert, comme si tu lui aurais offert le meilleur vêtement ou la meilleure montre de marque. Subhanallah, il se réjouit énormément jusqu'à ce que ça te mette toi dans la gêne parce que toi, peut-être, tu es gêné de ne lui donner que cela. Quelle est la cause de sa joie en réalité? Ça n'est pas le cadeau en soi. Ça n'est pas le cadeau en soi. Mais c'est le fait que tu aies pensé à lui dans ce voyage, d'entre l'ensemble des gens auxquels tu aurais pu penser, c'est lui qui est venu dans ton esprit, c'est elle qui est venue dans ton esprit, donc tu as acheté ce présent et tu lui as offert. Ben de la même manière, lorsque tu vas donner cela à ton voisin, ça va le toucher simplement parce que tu as pensé à lui. Ne méprise pas ce bol, cette petite assiette, ce petit plat. Naam, ce qu'ils appellent même peut-être les restes. Hein? Et certains dans leur culture, non, on va pas donner les restes quand même. Combien on a entendu ces paroles-là, qui sont en réalité erronées, comme on le verra ici, Inch'Allah ta'ala. Le but, c'est de maintenir le lien, la relation avec le voisin. Naam, même si tu sais que ton voisin n'est pas dans le besoin. À nouveau, le but, c'est le lien. À nouveau, le but, c'est de rentrer la joie. C'est de mettre cette atmosphère dans le quartier, dans le voisinage. Donc, notre législation nous encourage à cela. Tantôt, telle soupe, tantôt tel plat, tantôt tel bonbon, tantôt tel chocolat, tantôt, wakada, tantôt même un livre. Pourquoi pas? Donc le prophète sallam dit ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فِيهِ تَفَقُّدْ الْجِيرَانِ. Ici, le prophète sallam lui dit de rechercher. Hein? Ça demande quoi? De l'observation. Ça veut dire que tu sais qui sont tes voisins. Ça veut dire que tu fais attention à tes voisins. Ça veut dire que tu recherches la bonne action. Certains, si tu leur demandes, ils habitent des années à un endroit, ils ne savent même pas qui habite. Non. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des personnes âgées? Est-ce qu'il y a des personnes malades, des personnes dans le besoin ou non? Donc ici, on te demande d'observer le voisinage. On te demande d'observer le voisinage, de rechercher ceux qui ont peut-être besoin. Et ça, c'est une excellente éducation pour les enfants. C'est une excellente éducation pour la famille de manière générale. Et tout particulièrement, Naam, tout particulièrement, Maza, pour les enfants. Et faites l'expérience, vous verrez. Faites l'expérience, vous verrez. L'enfant va grandir dans l'amour de la sadaqa. L'enfant va lui venir te réclamer. Abbé ou bien Omé, tu peux me donner ça pour que je donne aux voisins? Il va être content et toi tu le félicites et tu l'encourages. Naam, il y a une excellente éducation. Dans cela, tu vas lui développer de nobles sens. Tu vas lui développer l'amour des bonnes œuvres, l'amour de la sadaqa. Et il te faut accompagner cette action de bonnes paroles. Tu dis par exemple à ton enfant, Ya Bounay, Ya Waladi, ô mon enfant, Naam, va donner cette assiette-là à notre voisin un tel. Naam, à notre voisin un tel. Comme j'ai aimé ce repas-là, j'espère qu'il l'aimera. Et tu lui fais montrer que tu lui donnes pas pour te débarrasser. Non, tu lui donnes parce que tu as aimé cela. Tu lui donnes parce que tu veux pour lui qu'il se réjouisse également. Tu lui donnes pour qu'il y ait ce lien entre vous. Et il va, ou bien tu fais une doua, ou bien tu écris un petit mot, et ainsi de suite. Que va-t-il se passer? Il y aura un lien dans ce quartier-là. Il y aura un lien dans cette rue-là, entre les différents voisins, à travers la miséricorde, à travers la pitié, à travers la fraternité. Et la cause, c'est un petit, yani un bol de soupe ou des choses qui en réalité ont très peu de valeur financière. Puis le prophète, alayhi salat, enfin le prophète sallam lui dit, وَصَلِّ صَلَاتَ لِوَقْتِهَا et prie la prière en son temps. Prie la prière, accomplis la prière durant son temps. Même si je trouve l'imam l'ayant déjà terminé. Ou plutôt, وَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ. À la Kullihal, la traduction est peut-être à revoir, mais prie la prière en son temps. Naam. Donc, tu dois prier la prière en son temps et préserver l'unité du groupe. Même si la prière n'est pas accomplie à l'heure, Naam, toi, tu devras l'accomplir à l'heure, puis aller prier avec le groupe et en faire une prière recommandée. Le tout pour préserver l'unité. Le tout pour préserver l'unité. Le chapitre suivant, Babun Khayrul Jiran. Le chapitre suivant, chapitre Le meilleur voisin. Chapitre Le meilleur voisin. Ou le meilleur des voisins. Non, le meilleur des voisins. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, khayrul ashabi inda Allah ta'ala, khayruhum li sahibi, wa khayrul jirani inda Allah ta'ala, khayruhum li jari. Inda Allah, khayruhum li jari. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des compagnons auprès d'Allah est le meilleur d'entre vous avec son compagnon. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah est le meilleur d'entre vous avec son voisin. Ici, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma nous enseigne une grande règle dans le domaine du voisinage et dans le domaine des accompagnateurs. Quel est le meilleur d'entre nous? Quel est le meilleur d'entre nous chez Allah? Naam. On commence en nous disant Khayrul ashabi indallah. Naam. Le meilleur des compagnons chez Allah Ta'ala. Lorsqu'on nous dit chez Allah, auprès d'Allah, ici, on attire notre attention sur un principe fondamental en islam, qui est l'ikhlas. Fil a'mali kulliha. La sincérité dans l'ensemble des bonnes œuvres. La sincérité dans l'ensemble des bonnes œuvres. Car les gens peuvent percevoir de toi telle ou telle chose. Ou les gens, même au fin fond de ton foyer, considérer que tu es la meilleure des personnes. Mais inch'Allah, tu ne l'es pas, car il sait ce qu'il y a en toi. À l'inverse, on peut considérer ceux qui te connaissent le mieux que tu es la pire des personnes. Mais Allah Azza wa Jal voit dans ton cœur que tu es une bonne personne. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser Allah à travers ton acte. Ne cherche pas à être le meilleur avec les gens, pour les gens, pour obtenir ce qu'il y a dans la main des gens. Non, cherche à être le meilleur, certes, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des compagnons dans quoi? Ça peut être dans le voyage, ça peut être le compagnon dans la recherche de la science, ça peut être le compagnon, le camarade de classe, ça peut être le compagnon, le collègue de travail. Naam, cherche à être le meilleur chez Allah en étant sincère dans ta relation avec chacune de ces personnes. En te montrant sincère, en te montrant véridique, naam, en faisant le bien et en les préservant de ton mal. Le tout à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le tout à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Puis, donc tu te mets à leur service, tu tentes de leur rendre service, tu essaies de te montrer disponible. Lorsque l'un de tes compagnons, tu sens en lui ou tu vois en lui un éloignement du bien, tu l'encourages, une ignorance face à un bien, tu lui enseignes, il commet une faute, tu le reprends, tu le corriges, tu sens qu'il va mal, tu le visites, tu le conseilles, tu essaies de lui remonter le moral. S'il est en tort, tu le blâmes pour qu'il revienne à Allah, Azza wa Jal se repente. S'il est dans le bien et est opprimé, tu le renforces, tu le raffermis sur la vérité pour qu'il s'accroche à son dîn, et ainsi de suite. Puis, khayrul jirani indallah khayruhum li jari. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah est le meilleur d'entre eux avec son voisin. Plus tu es utile et profitable à ton voisin de par ton bien, et moins tu touches ton voisin de par ton mal, plus grande et haute est ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le sens de ce hadith. Plus tu t'acquittes de tes devoirs envers tes voisins à travers tous ces chapitres qu'on a étudiés et ceux qui restent à venir, plus tu t'éloignes du mal qui pourrait le toucher de ta part, plus tu as cette part mentionnée dans ce hadith. À travers ces textes, on nous encourage à quoi? À nous acquitter de nos devoirs envers les voisins, tout en espérant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, par Allah, tu es le meilleur chez Allah, subhanallah, ça te suffit comme noblesse, ça te suffit comme réussite. Aussi, il y a ici un tasliya, un réconfort pour tout voisin bienfaisant recevant du mal ou ne recevant pas de bienfaisance de la part de ses voisins. Quel est ce réconfort? C'est que sa récompense est chez Allah. C'est que sa place est chez Allah et chez Allah c'est le meilleur. Naam, si tu fais le bien et tu le protèges de ton mal et tu es généreux, et lui, à l'inverse, lorsqu'il te voit, il ne te passe pas le salam. À l'inverse, il est dérangeant. À l'inverse, il a un mauvais comportement. À l'inverse, il parle mal de toi, et ainsi de suite. Dis-toi, chez Allah Azza wa Jal, j'espère être l'un des meilleurs. J'espère entrer dans ce hadith. Pourquoi? Parce que toi, quand tu faisais tout cela, ton but était quoi? La recherche de la récompense chez Allah Azza wa Jal. Une question. Comment pourrais-je être le meilleur des voisins chez Allah si je n'étudie pas? Donc ici, on nous appelle à quoi? Ici, on nous appelle à étudier tous ces chapitres passés et tous ces chapitres à venir sur le voisinage, sur les droits des voisins. Car celui qui ne connaît pas, comment est-ce qu'il pourrait appliquer? Et celui qui ne connaît pas la gravité d'une chose, comment est-ce qu'il pourrait s'en éloigner? Donc on voit ici l'importance d'étudier ces différents chapitres relatifs au voisinage. بارك الله فيكم apprenez la sunna du prophète sallam. Dès que tu veux être le meilleur dans un domaine religieux, sache que ça passe par la connaissance du prophète alayhi salatu wa sallam dans ce domaine religieux, car c'est lui l'exemple, c'est lui le meilleur sallallahu alayhi wa sallam. À l'inverse, tu comprends quoi? Que le pire des voisins, chez Allah subhanahu wa ta'ala, est le pire avec ses voisins. C'est celui qui se montre le pire, le plus mauvais avec ses voisins. Pas bah, il lui nuit, il lui fait du mal, il médit de lui, il ment sur lui, il salit son image. Dans son cœur, il a de la haine contre lui. Naam, il est envieux, jaloux de lui. Si une personne est touchée par une maladie semblable, il se doit de soigner son cœur, de soigner son âme et de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal voit ce qu'il y a dans son cœur, entend ses paroles et voit ses faits et gestes. Et que c'est vers lui qu'il retournera et c'est auprès de lui qu'il aura sa réelle place. Était-il le meilleur ou était-il le pire ou entre les deux? Wa billahi tawfiq. Un point duquel il ne faut pas être distrait. Tu veux être le meilleur des voisins? Il ne faut pas omettre le côté de la recommandation, le côté du conseil sincère, le côté de la transmission, de la da'wa, de la prédication. Qui t'empêche d'aller voir ton voisin et de lui rappeler l'importance du tawhid, de lui rappeler l'importance de la prière, de lui rappeler l'importance de la zakat, l'importance du jeûne, l'importance de tel comportement, de telle bonne action? Qui t'empêche, lorsque tu vois son enfant faire un mal, de l'attraper avec douceur et de lui faire des recommandations? Naam. Et en général, celui qui a appliqué les chapitres précédents, la bienfaisance, les sadaqat, le bon comportement, subhanallah, tu as de grandes chances qu'il accepte de toi par la suite les recommandations et les conseils. Tu le rencontres avec le sourire, tu le salues. Lorsqu'il porte quelque chose, tu essayes de le soulager, tu lui fais des cadeaux, tu fais dua pour lui, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, Babun al-Jaru Salih. Le chapitre suivant, chapitre le voisin pieux ou vertueux. C'est-à-dire, quelle est la place et le statut du voisin qui est pieux? Et quel est le bienfait d'Allah sur toi s'il t'honore en mettant à tes côtés un résident pieux et vertueux? Ceci fait partie du bonheur. Ceci fait partie des causes du bonheur qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit عن نافع عن ابن عمر عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. D'après نافع ابن عبد الحارث, le prophète رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: fait partie du bonheur de l'individu musulman une demeure vaste, un voisin pieux et une monture docile. Donc ces trois points-là font partie des causes du bonheur de la personne musulmane. Donc, trois choses font partie des causes qui amènent le bonheur au serviteur dans ce pas. On a un autre hadith qui ajoute la femme pieuse. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arba'un min sa'adatil mar'a ». Quatre choses font partie du bonheur du service, de la personne. « Al mar'atu saliha », la femme pieuse, l'épouse. « Wal maskanul wasi'a », la demeure vaste. « Wal jaru saliha », le voisin pieux, ou le markab al-hani, et la monture docile. Wa arba'un min ash-shaqawa, Et quatre choses font partie du malheur. Al-mar'atu sou, l'épouse, la femme qui est mauvaise. Naam, wal maskanu dayyiq, la demeure qui est étroite. La wal jaru as-sayyi, ou comme a dit le sallam, al-jaru sou, le mauvais voisin. Naam, et la mauvaise monture. Ce hadith rapporté par Ibn Hibban, authentifié par l'Albani, à la charte al-shaykhayn, rahmatullahi alayhi. Dans ce hadith, on nous invite à rechercher le bonheur. Mais en apprenant avant d'agir. On nous enseigne pour nous encourager à aller vers les causes réelles du bonheur. Le bonheur est le but de chaque être dans ce bas. Tout ce qui est fait en réalité à la recherche du bonheur. Cependant, les gens ont divergé dans les causes. Certains pensent que le bonheur se trouve simplement dans quoi? Dans l'argent. Alors ils sont prêts à tuer, à voler et travailler dans le haram pour obtenir de l'argent. Ils trahissent, ils volent et arnaquent. D'autres, eux, ont pensé que le bonheur se trouvait dans le pouvoir. Alors ils sont prêts à tout faire pour obtenir le pouvoir, dominer, quitte à faire couler le sang d'une partie de la population. D'autres, eux, ont pensé que le bonheur résidait dans les drogues et l'alcool. Alors ils ont anéanti leur âme avant d'avoir anéanti leur santé et d'avoir cassé les liens de parenté. D'autres encore pensent que le bonheur est simplement dans les femmes. Alors ils vont de femme en femme dans le haram et courent après les femmes de la rue, ou les iyazou billah, sans jamais être rassasiés. Mais en réalité, toutes ces personnes-là, après avoir frappé à maintes et maintes portes, les ont toutes trouvées fermées. Et à leur nez, elles ont été claquées. Vous savez pourquoi? Car en réalité, Rahimanillah wa iyyakum, la vraie porte du bonheur, elle se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai bonheur, il est dans la parole d'Allah, il est dans la voie du messager d'Allah. Le vrai bonheur, il est dans le fait de croire en Allah, de croire au messager. Le vrai bonheur, il est dans la religion d'Allah et la soumission à sa législation. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, nous n'avons pas révélé ce Qur'an pour que tu sois malheureux. Donc, on a révélé ce Qur'an pour que tu sois heureux. La cause du bonheur, c'est la foi. La cause du bonheur, c'est le fait de prendre Allah comme Seigneur immense, reconnaissant qu'il a la perfection absolue, de se soumettre à lui, uniquement seul sans associé, de l'adorer lui, uniquement seul sans associé, de reconnaître sa perfection absolue, le fait de ne être tranquillisé que par lui, le fait de ne rechercher son agrément que le sien. Le bonheur, il réside dans le fait de prier Allah Azza wa Jal, de prier à l'heure, comme Allah Azza wa Jal te l'ordonne. Le bonheur, il réside dans le fait d'accepter la parole d'Allah Azza wa Jal, le fait de juger avec, le fait de la réciter, le fait de prier avec, le fait de la prendre comme juge pour trancher dans tes affaires. Le bonheur, il est dans le fait d'emprunter le chemin du prophète, alayhi salat wa salam. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur et le seul moyen d'atteindre la plénitude. Toute autre personne, quelle qu'elle soit, aussi richissime soit-elle, vous la verrez tôt ou tard en quête de bonheur. Il va courir après une chose à travers laquelle il voit son bonheur. Il va ressentir des émotions. Puis, il sera dans la peur de ne pas l'atteindre. Puis, une fois l'avoir atteint, il sera dans la peur de s'en voir séparé. Il ne sera jamais apaisé par ce bonheur éphémère. Puis, soit ce bonheur se séparera de lui, soit lui se séparera de ce bonheur. Quant au croyant, jamais son bonheur ne le quitte, quel que soit son état. S'il est dans l'aisance, il se montre reconnaissant, son bonheur s'accroît. S'il est dans la difficulté, il se montre endurant, son bonheur s'accroît. Et s'il commet une faute, il se montre repentant, son bonheur revient. Puis lorsqu'il s'apprête à mourir, son bonheur dépasse l'entendement. Des anges descendent sur lui. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah. Puis ont observé la droiture. En suivant le prophète, des anges descendent un par un sur lui en lui disant, n'aie pas peur, c'est-à-dire pour ton futur, et ne sois pas triste, c'est-à-dire pour ceux que tu as laissés. C'est Allah Azzawajal qui va les préserver. Nous sommes tes alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il lui annonce la bonne nouvelle de ce qu'il va trouver chez Allah et du paradis. Là, son bonheur augmente. Les gens, lorsqu'ils meurent, ils perdent, ils se séparent de leur bonheur éphémère. Mais le croyant, lorsqu'il s'apprête à mourir, il est encore plus heureux, ça ne cesse d'augmenter. Allahu Akbar. Puis il arrive dans sa tombe, on finit son enterrement, et là deux anges lui viennent, avec les visages les plus radieux, les plus magnifiques, et ils lui posent deux questions, ou plutôt avant ça même, avant ça, deux anges, Munkar et Nakir lui posent trois questions, « Men Rabbouk, ma dinouk, wa ma da taqoul fi hadar rajoul aladhi bu'itha fikoum, qui est ton Seigneur ?» Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, « Biallah, digne à l'islam. » Et cet homme, c'est Mohammed Rasulullah. Et là, on entend une voix qui dit, « Sadaqa abdi, mon serviteur a dit la vérité. » Élargissez sa tombe. Tapissez sa tombe du paradis. Faites-lui parvenir une odeur. Yani, on lui, plutôt, mon serviteur a dit la vérité. On lui élargit sa tombe. On lui fait arriver une odeur du paradis. On lui montre sa place au paradis jour et nuit. Il dit, « Rabbi aqim sa. » Oh Allah, fait que ce soit l'heure de la fin du monde. Il est encore plus heureux qu'il ne l'était avant. Ensuite, à la résurrection, on lui met son livre de la main droite. On alourdit sa balance. Il boit du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Des sentiments, une réjouissance et une jouissance qu'on ne peut imaginer. Puis il a qui devant lui? Il a le prophète, alayhi salam. Il a les prophètes, il a les sahaba, il a les pauvres parmi les muhajiroun, il a l'ansar. Il y a les meilleurs de la communauté. Et le prophète, alayhi frappe à la porte du paradis. On lui dit, qui est-ce? Et il dit que c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On lui ouvre la porte et l'ange a reçu l'ordre de ne pas ouvrir avant lui à qui que soit, à quiconque en dehors de lui. Puis il rentre dans le paradis, puis les prophètes, naam, puis sahaba, les pauvres parmi les muhajirun, sahaba, et ainsi de suite. Et lui, il rentre au paradis. Subhanallah. Et ça ne s'arrête pas là. Là, il est dans un effet de joie que nul ne peut imaginer. Ensuite, on appelle les gens du paradis, on appelle les gens de l'enfer. Et on leur montre la mort représentée sous forme d'un bélier. On dit, est-ce que vous reconnaissez cela? Tout le monde dit oui, tout le monde l'a goûté. Et on sacrifie la mort. Et on leur dit, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Et là encore, il prend des degrés de bonheur et des degrés de joie. Est-ce que c'est fini? Alors qu'il est dans les jardins du paradis, alors qu'il a ses demeures et ses palais d'or et d'argent, alors qu'il a tout ce qu'il veut et des fleuves, des ruisseaux, de lait, d'eau, de vin et de miel, alors qu'il profite du paradis, on l'appelle d'entre l'ensemble des habitants du paradis. « Ya Ahl al-Jannah, ô vous les gens du paradis !» Ils répondent à leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla leur dit qu'il a une promesse qu'il veut leur accorder. Et ils disent, « N'as-tu pas blanchi nos visages ? N'as-tu pas pardonné nos péchés ? Ne nous as-tu pas accordé ce que tu n'avais jamais donné à des gens avant nous ?» Et là, on leur dit, « Uhillu alaykum ridwani wa la asratu alaykum abada. » Je vous donne ma satisfaction et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Allahu Akbar. Il culmine encore et s'élève dans les degrés du bonheur qu'on ne peut imaginer. Et au-dessus de cela, wa ridwanu min Allahi Akbar. Et l'agrément d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand. Mais il y a encore plus grand bonheur que cela. C'est qu'Allah Azza wa Jal les appelle et il leur donne az-ziyada. Il leur dit qu'il va leur ajouter une chose et il dévoile son noble visage et il contemple son visage et il ne leur a pas été donné une chose plus somptueuse, plus magnifique que de contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. Voici le bonheur, ikhwan al-kiram. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Tu dois prendre la main de ta famille, la main de tes enfants et tu dois leur dire, c'est ça le bonheur. C'est pour cela qu'il faut agir. C'est pour cela qu'on délaisse ça. Les péchés, c'est pour cela qu'on fait ça. Les hasanat, c'est pour ça qu'on patiente. Les difficultés, ça c'est le chemin du bonheur, ikhwan al-kiram. Et pour l'obtenir, il te faut trois choses. Premièrement, savoir ce qu'est le bonheur. Deuxièmement, savoir le chemin qui mène au bonheur. Troisièmement, emprunter ce chemin. Puis il te faut trois autres choses, comme le dit Ibn Qayyim dans le Wabil, dans Risalat Ibn Qayyim al-Ahadi Khwani, la lettre d'Ibn Qayyim à l'un de ses frères. Il te faut aussi trois autres choses qui sont connaître le chemin du mal. Connaître le mal. Deuxièmement, connaître le chemin du mal. Troisièmement, t'éloigner du chemin du mal. Tu concrétises ces six choses-là. Et bien, idhnillah azza wa jal, t'auras le bonheur. Non. Et par moments faibli, il te faut un moteur. C'est un amour inconditionnel et une peur effrayante. L'amour d'Allah Azzawajal, la peur d'Allah Azzawajal. Voici ce qu'il y a de meilleur. Revenons au hadith. Je me suis attardé sur ça, car beaucoup délaissent le chemin de l'islam, pensant que en rentrant dans la religion, ils perdent le bonheur. Et en pensant que ce que les gens ont comme matériel éphémère à l'extérieur, c'est ça le bonheur. Et ils se mettent à perdre des 20 ans de leur vie, des 50 ans de leur vie. Puis, assis dans leur canapé, ils disent, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie, j'ai couru après cet argent-là, c'est cet argent-là qui m'a égaré. J'ai couru après cette femme-là, c'est cette femme qui m'a égaré. J'ai couru après ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là qui m'a éloigné. Alors que l'autre à côté, son voisin, il est avec sa chère mère, il s'occupait d'elle, avec son épouse, ses enfants, il vivait modestement. Il faisait sa salat, il faisait de mal à personne, et voilà qu'il a obtenu le bonheur. Ne vous laissez pas tromper par tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, par ce qui est propagé, par ceux qui font semblant d'être heureux mais ils souffrent. Ils ont refusé d'être esclaves volontaires d'Allah Azzawajal. Allah a décrété pour eux d'être la servitude face aux passions. Face aux passions. Wal'iyadhu billah. Donc, parmi les grands bienfaits d'Allah Azzawajal, le fait que tu aies un voisin pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, une demeure vaste. Une demeure vaste. C'est-à-dire un logement qui va te suffire à toi, épouse, enfant, et si il y a autre personne avec vous dans le foyer comme les parents ou autres, na'am, comportant, donc un foyer comportant un nombre de pièces suffisantes de sorte à ce que les parents aient leur intimité lorsqu'elle est souhaitée. Et de sorte à pouvoir mettre les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, et celui, s'il y a une personne qui est grande, qu'il puisse avoir sa pièce. Les savants disent même une pièce, et aller en plus pour les invités. Une pièce en plus pour les invités. Une salle où on peut se réunir et s'asseoir. Lorsqu'on dit la demeure vaste, certains lisent le hadith et le comprennent mal. Ils comprennent que c'est un château, ils comprennent que c'est une superficie où il y a des pièces décorées, où il y a sidari, des fauteuils, des canapés, et qu'ils ne sont pas utilisés. Ça, c'est du ça peut être du gaspillage. Ça n'entre pas dans le hadith. Ça n'est pas voulu dans le hadith. C'est pour cela que les savants disent sans gaspillage, biduni israf. Naam. Dans le cas où il y a beaucoup de pièces non utilisées, non nécessaires, et que la personne vise malgré tout à se vanter, à dire j'ai ceci, j'ai cela, à faire montrer aux gens et se gonfler de cela, alors, qui habite ces pièces-là? Il y a un hadith qui nous dit que ce sont les shayatin. Il y a un hadith qui nous dit que ce sont les shayatin. Car il a été dit dans le hadith, Al-Furushu Thalatha. Naam, les endroits habités sont au nombre de trois, ou les places occupées sont au nombre de trois. Firashun lak, une couche pour toi. Firashun les daifek, qui donc pour toi et tes proches. Un pour tes invités, d'accord? Et le troisième pour les chiardés. C'est-à-dire ceux qui sont inutilisés, non nécessaires, gaspillés. Donc on fait attention à cela. Maintenant, si la personne a besoin d'espace, elle a une pièce en plus, elle peut l'utiliser. Elle peut en faire un bureau. Elle peut en faire une maktaba, une bibliothèque. Elle peut en faire une salle de jeu. Elle peut en faire une salle de travail, elle peut en faire une classe, une salle de repos. Naam. elle peut l'utiliser de maintes et maintes manières. Et ceci fait partie de la sa'ada, ceci fait partie du bonheur de ne pas se sentir à l'étroit et d'avoir le nombre de pièces suffisantes pour faire ce dont nous avons besoin. Sans exagération. Sans exagération. On peut supposer que dans un foyer, il y ait par exemple 2 salles de bain ou 2 toilettes à Kramakoum. Un côté, par exemple, pour les enfants, un côté pour les parents. Ou un côté pour les garçons, un côté pour les filles. On ne dira pas que c'est du gaspillage. On ne dira pas dans ce cas-là que c'est du gaspillage. Ou un pour les invités et un pour les habitants. Par contre, s'il y a une seule chambre et qu'il y a les parents, 3 enfants, une fille, 2 garçons ou 2 filles, un garçon, et qu'il n'y a qu'une seule chambre à coucher. Ça peut être une cause de sentir à l'étroit et une cause qui peut amener des soucis, des problèmes. Non. Et certaines personnes, en mentionnant les causes de leur divorce, ont dit que c'est le fait de ne pas avoir eu de pièces suffisantes dans le logement. Ça a donc mis de la tension et des disputes très faciles. Non. Car quand il y a le combustible, c'est très facile d'attiser. C'est très facile d'attiser. Naam, barakallahu fikum. La deuxième cause, al-jar al-salih, c'est le voisin pieux et c'est la sagesse pour laquelle l'auteur a mentionné ce hadith ou ce chapitre. Al-jar al-salih, le voisin pieux, tu es apaisé de par sa présence dans ton voisinage. Tu te réjouis. Tu te vois à l'abri de ses nuisances. Tu profites de sa piété. Sa rencontre et la discussion avec lui t'est utile et bénéfique. Elle augmente la foi, elle te rappelle Allah, elle te rappelle la demeure de l'au-delà. S'il voit un bien sur toi, il t'encourage et fait du'a pour toi et demande à Allah de le bénir. S'il voit un défaut sur toi, il le couvre et il vient et te conseille en privé. S'il voit des lacunes sur tes enfants, il te les mentionne. S'il les voit faire de mauvaises choses, il les corrige et te le mentionne. Aussi, tu prends exemple sur lui lorsque tu vas regarder l'éducation qu'il fournit à son épouse, à ses enfants. Ça va t'aider, toi, peut-être, que tu as du mal dans l'éducation, par exemple, des filles, parce que tu as eu l'habitude d'avoir des garçons. Et lui, t'as précédent cela. Ou le contraire. Tu vas lui demander conseil. Ou tu as des enfants qui font des crises. Ou tu n'arrives pas à avoir de l'autorité. Ou tu es trop sévère. Ou... Subhanallah, le voisin pieux, il est Moubarak, il est béni. Il y a beaucoup à tirer et à profiter de lui. Ne serait-ce que de ses conseils. Ne serait-ce que de ses conseils. À l'inverse, parmi les pires punitions et parmi les pires souffrances, le fait d'avoir un mauvais voisin duquel tu n'es pas à l'abri de ses nuisances. Naam, il te nuit, il te dérange de jour comme de nuit. Il ne se soucie aucunement de te faire du bien, mais pire encore, il n'est aucunement dérangé de te faire du mal. Et lorsqu'on lui fait le rappel, il dit « je suis chez moi » ou « je fais ce que je veux » ou « il abuse » ou « elle abuse » et ce genre de paroles qui montrent que la personne n'a pas ce chapitre de la charia dans son cœur. « Wa la hawla wa la quwwata illa billah » C'est tellement grave que le prophète faisait dua, comme on le verra dans un chapitre, inshallah, contre le mauvais voisin. Contre eux, le mauvais voisin. Le troisième point, al-markab al-hani, la monture docile. Al-markab, c'est al-daba, c'est la monture, c'est le cheval, c'est ainsi de suite. Et de nos jours, les voitures, les motos, les vélos et autres, et c'est un très grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. À l'époque, ils voyageaient sur quoi? À dos de chameau, subhanallah, pour aller d'un endroit à un autre. Quand vous entendez que les rois, ils allaient là-bas, mais dans quelles conditions? Ils mettaient des mois pour aller d'un point à un autre. Le soleil, le vent, la pluie, la difficulté. Naam, le fait d'être assis sur une selle. Subhanallah. Naam, le fait de voyager avec des gens à ton service, avec la nourriture qui était portée. Le fait de manquer d'eau. Naam, c'était très difficile. Toi aujourd'hui, subhanallah, tu peux vivre dans un pays où il fait 40 degrés au quotidien et tu es dans la voiture, il y a la climatisation. Tu ne ressens même pas la difficulté. Tu ne ressens même pas la difficulté. Tu roules d'un point à un autre. T'es murtah, t'es bien. Subhanallah. Naam, tu es bien. Tu ne sens même pas la difficulté. Même lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente, lorsqu'il neige, tu es à l'intérieur de ta voiture. Tu mets le chauffage. Tu es à l'intérieur de ta voiture. Tu mets la climatisation. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azzawajal. S'il en est ainsi, Ikhwanil Kiram, on doit craindre Allah avec ses moyens de transport et veiller à ne mettre personne en danger, ni ceux qui sont avec nous, ni ceux qui sont à l'extérieur. Enfin, on doit craindre Allah Azzawajal et ne pas utiliser les voitures comme le font certaines personnes égarées à faire des courses, à renverser des enfants. Combien cela s'est-il passé de fois? Ou à prendre la voiture au moment où il prend le bienfait d'Allah, sa seule intention, c'est d'aller dans une chicha, c'est d'aller fumer, d'aller se droguer, d'aller dans le haram, d'aller voler, d'aller trahir. Naam, subhanallah, il prend le bienfait d'Allah. Sa première intention et sa dernière intention, c'est d'aller faire du haram. Alors qu'il dit la dua, il remercie Allah de lui avoir assujetti cette monture. Naam. Et pas dans ce hadith-là, mais dans l'autre hadith, le prophète a mentionné la femme pieuse, et on s'arrête sur cela. La femme pieuse, pourquoi? Parce que la femme pieuse est d'une grande aide à son époux dans ce bas monde. Elle lui amène le repos, la tranquillité du cœur, mais également la tranquillité de la vue et de la partie, dans le sens où il baisse son regard. Il ne regarde pas les femmes dehors parce que elle remplit son regard, elle s'embellit, elle cherche à le satisfaire. Également, il est préservé car elle vient, elle le satisfait. Donc, il est préservé lorsqu'il sort à l'extérieur, mais également de par ses nobles conseils, de par sa piété. De par ses conseils, de par sa piété. Lorsqu'il est dans la difficulté, elle lui montre que ça n'est pas ça pour elle la difficulté, mais sa simple présence est pour elle. Elle, à travers ça, elle est honorée. Elle fait dua pour lui. S'il a des dettes, elle fait dua. Elle l'encourage. Elle l'oriente vers des causes où elle dépense de son argent pour ses dettes. Naam, s'il est attristé, c'est elle la joie. Elle remplit son cœur de joie. Elle le fait rire. Elle lui change les idées. Car en général, lorsque l'homme est attristé, c'est un rapport avec la famille. Soit il a des dettes, soit il a des difficultés financières, soit elle lui a causé du tort, soit. Donc elle vient, elle tente de dissiper ce qu'il a en lui pour transformer ce mal-être en bien-être, cette faiblesse en force, cette tristesse en joie, et ainsi de suite. Elle lui permet de relativiser les difficultés. Aussi, elle fait en sorte qu'il se concentre sur l'au-delà et elle le pousse vers les bonnes œuvres. Aussi, elle le retarde face aux mauvaises œuvres. Comme une des femmes chez les salafs faisait à chaque fois que son époux sortait pour travailler, elle disait: Oh, un tel craint Allah envers moi et mes enfants. Car certes, on peut patienter sur la faim, mais on ne pourra pas patienter sur le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loin de la femme qui, elle, est la cause des soucis de son époux, qui, elle, est la cause du malheur de son époux, qui, elle, s'il lui donne de la dunya, elle vante ses mérites ici et là, et si Mada, on lui resserre de sa dunya, elle le critique et mange sa chair ici et là. Qu'Allah Azzawajal nous réforme, ainsi que nos proches, qu'il pardonne à nos défunts et soigne nos malades. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين